L'heure du journal d'Haïti et des Amériques avec Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le Russiagate suite. Le fils aîné de Donald Trump admet avoir rencontré l'an dernier une avocate du gouvernement russe car elle avait des infos compromettantes sur l'adversaire de son père à la présidentielle, Hillary Clinton. Son père, qui l'a défendu ce matin, Sergueï Lavrov aussi, c'est le chef de la diplomatie russe. On y revient, on récapitule toute cette histoire dans un instant. Avec vous, Benjamin Delisle, bonjour.
Bonjour.
Autre titre, Alberto Fujimori va-t-il bénéficier au Pérou d'une amnistie pour raisons médicales. Le président Kuczynski évoque en tout cas cette possibilité. Il faut dire que la fille de l'ancien chef de l'État péruvien a un grand pouvoir de nuisance. Nous appellerons notre correspondant Éric Sanson. Nous irons aussi en Haïti. Le gouvernement veut faire revenir les touristes et pour cela, pense-t-il, il faut éduquer les Haïtiens, leur apprendre à accueillir les visiteurs. C'est ce que dit en tout cas la ministre du Tourisme. L'île a beaucoup de choses à offrir selon elle.
Haïti est un diamant non encore poli. Haïti a un passé, Haïti a une culture qui est riche, unique. Et nous avons le plus grand réseau de fortifications, nous avons des richesses. En partant du littoral jusqu'à la montagne, il suffit seulement de prendre le taureau par les cornes et de dire voilà, on fonce.
La suite de l'entretien avec la ministre du Tourisme dans quelques minutes. Des révélations régulières dans la presse depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Révélations autour des liens entre son équipe et la Russie avec ce nouvel épisode hier, Benjamin Delisle, qui pourrait faire figure de tournant. Alors pour bien comprendre, on va revenir avec vous sur le déroulé des événements de ces derniers jours. Tout est parti des nouvelles informations publiées par le New York Times.
Oui, c'était samedi. Le quotidien a révélé que pendant la campagne présidentielle, le fils aîné de Donald Trump, son gendre et son directeur de campagne ont rencontré une avocate russe liée au Kremlin dans le but d'obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton.
Alors au début, Donald Trump Jr. a nié, il a parlé de cabale contre lui, mais finalement il a surpris tout le monde en publiant hier des échanges de mails.
Oui, en fait il y a été poussé par le New York Times qui disait en avoir une copie. C'est un échange de mails avec un publiciste, Rob Goldstone, qui visait à organiser la rencontre avec l'avocate. Il y est clairement écrit que des informations compromettantes vont lui être données, qu'elles émanent directement du pouvoir russe, ce à quoi il répond « J'adore ».
Alors, ça fait des mois qu'on parle de cette affaire, Benjamin, de ces ingérences russes dans la campagne. Pourquoi là, cette information serait-elle un tournant ?
Parce que jusqu'ici, les collusions entre l'équipe de Donald Trump et la Russie n'étaient que soupçonnées. C'est la première fois, il y a une trace écrite qui montre que le gouvernement russe a bien tenté d'interférer dans la campagne et que des proches de Donald Trump ont tenté d'en profiter. D'autant que ce genre d'interférence doit être reporté directement au FBI, ce qui n'a pas été fait ici.
Alors comment réagit la presse aujourd'hui ?
Eh bien l'affaire fait véritablement l'effet d'une bombe. Nous savons maintenant que l'équipe Trump n'a fait que mentir à propos de la Russie, titre le Boston Globe. La plupart des quotidiens s'attaquent au discours changeant de Donald Trump Jr. dans cette affaire. Le New York Times pointe la culture de la malhonnêteté qui règne dans le camp Trump. Les déclarations contradictoires de Donald Trump Jr. montrent à quel point son père et toutes les personnes autour de lui manipulent la vérité, insiste le quotidien.
Alors comment Donald Trump Jr. compte-t-il maintenant se sortir de cette affaire ?
Eh bien, le fils du président tente de minimiser l'affaire. Il a donné hier sa première interview à Fox News, une chaîne proche de Donald Trump.
Rétrospectivement, je pense que j'aurais fait les choses différemment. Encore une fois, c'était avant la Russie-mania, avant que la presse n'en fasse une affaire. C'était de la recherche sur l'opposition. Ils avaient quelque chose, peut-être des preuves de ce que j'avais entendu, mais que les journalistes passaient sous silence depuis des années, pas depuis la campagne. Je voulais donc savoir. Franchement, ça n'a rien donné. Cette réunion n'avait rien à voir avec le sujet, je n'ai rien à raconter. Je ne m'en serais même pas souvenu avant tout ce bruit. J'ai littéralement perdu 20 minutes. Quel dommage.
Alors voilà, Donald Trump Jr. à l'instant. Son père, le président américain, commente ce matin sur Twitter « Mon fils a fait du bon boulot hier soir. Il a été ouvert, transparent, innocent. C'est la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire », dit-il encore. Même ligne de défense du côté de la Russie. Le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, soutient aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème ou de menace dans le fait que Donald Trump Jr. et parler avec un avocat. Bref, la presse en fait trop. Selon eux, les journaux ne sont pas vraiment de cet avis.
Pas du tout. Le Chicago Tribune accuse Donald Trump Jr. de s'exprimer dans un média qui ne lui oppose aucune contradiction, aucune question sur ses revirements. L'équipe de Trump joue la carte de l'inexpérience politique, pointe le Washington Post. Mais selon le journal, cela ne prend plus. Cette ligne de défense avait plus ou moins marché dans l'affaire du renvoi de James Comey, l'ancien directeur du FBI. Mais le journaliste estime que plus on avance, plus cela montre leur incompétence et leur mauvaise gestion. Le tout aggravé par un népotisme et de la, malhonnêteté.
Alors, quelles pourraient être maintenant, Benjamin Delisle, les conséquences immédiates de cette affaire ?
Alors, d'un point de vue politique, le Washington Post montre qu'il ne devrait pas se passer grand-chose. Les républicains du Congrès continuent de soutenir Donald Trump car il reste populaire chez les électeurs. Or, ils ont besoin de cet électorat. Le calcul politique est clair, poursuit le journal. Les républicains sont majoritaires au Congrès et ils veulent garder cette majorité aux élections de mi-mandat en 2018. Comprendre, aucune procédure ne sera votée contre Donald Trump.
Et sur le plan judiciaire ?
Selon un ancien procureur fédéral interrogé par le New York Times, cette rencontre ne suffit pas à poursuivre le fils du président pour conspiration, car il faudrait une preuve que cette rencontre visait à commettre un crime fédéral, ce qui n'est pas encore le cas. Le journal précise que Donald Trump Jr. pourrait éventuellement être jugé pour avoir violé la loi électorale. Elle interdit à tout étranger de contribuer directement ou indirectement à une élection américaine. Mais ici encore, il est trop tôt pour savoir si les informations données par l'avocate peuvent être comprises juridiquement comme étant une contribution.
Alors voilà pour ce dossier. C'est dans ce contexte que le candidat de la Maison Blanche pour diriger le FBI, Christopher Wray, est auditionné par la commission du Sénat. Elle est chargée maintenant de confirmer sa nomination. On quitte les États-Unis pour la suite de votre revue de presse, Benjamin Delisle. Au Venezuela, la Cour suprême s'apprête à décider du sort de Luisa Ortega, la procureure dissidente, pourtant chaviste, de la première heure.
Oui, la décision doit être communiquée aujourd'hui, mais elle a déjà fait savoir qu'elle n'en tiendrait pas compte dans un entretien à la radio argentine Radio Con Voz. Elle dit vouloir fermement rester à son poste pour défendre la démocratie. Dans une autre interview, elle avoue ne pas avoir peur d'être emprisonnée si cela peut éveiller les consciences, ce qui laisse dire à El Nacional qu'elle offre sa liberté pour améliorer la situation du pays.
Et on termine avec le Mexique où une application mobile vient en aide aux femmes de Ciudad Juárez.
C'est à lire sur le site Milenio. L'application s'appelle No Estoy Sola, je ne suis pas seule en français. Le principe est simple, il suffit d'agiter son téléphone ou d'appuyer sur un bouton pour envoyer un message d'alerte à ses proches en cas de danger imminent. L'application envoie alors un simple message texte avec un lien vers Google Maps qui indique la position de la personne. C'est la mairie de la ville qui est à l'origine du projet pour faire face aux nombreuses disparitions de femmes et aux féminicides qui se multiplient dans la ville.
Benjamin Delisle, merci pour cette revue de presse à relire sur RFI.fr, onglet Monde, puis Amérique. Direction le Pérou maintenant, où nous retrouvons notre correspondant Éric Sanson. Le président de la République péruvienne va-t-il pardonner Alberto Fujimori ? L'ancien chef de l'État purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour violation des droits de l'homme. Le 7 juillet dernier, Pedro Pablo Kuczynski, le président, a évoqué, Éric Sanson, la possibilité d'un pardon médical.
Le chef de l'État péruvien a précisé qu'il n'a pas l'intention de gracier Alberto Fujimori, mais que ce dernier, en raison de son âge et de ses problèmes de santé, pourrait faire l'objet d'une éventuelle amnistie pour raison médicale. Selon Kuczynski, tout dépendra d'un rapport que les médecins indépendants doivent réaliser d'ici la fin de l'année à Fujimori, qui, âgé de 78 ans, purge sa peine dans une maison qui est installée dans une base policière à Lima.
Alors qu'en pense la population péruvienne ?
Selon un sondage rendu public lundi de l'agence Datum, 57% des Péruviens seraient favorables à une grâce présidentielle en faveur de Fujimori. Il ne serait plus que 38% à s'opposer à sa libération. Il faut cependant prendre ces chiffres avec précaution. L'anti-fujimorisme est encore fort dans le pays. C'est d'ailleurs parce qu'il a reçu le soutien des partis de gauche que le président actuel, un ex-banquier libéral, a été élu de justesse, mais élu quand même, il y a un peu plus d'un an, alors que la fille de Fujimori avait largement remporté le premier tour de la présidentielle.
Et justement, Éric, comment ont réagi les partis de gauche, les organismes de défense des droits de l'homme aussi, face à cette possible amnistie de Fujimori ?
Alors, des milliers de Péruviens ont manifesté, notamment à Lima, dans le centre historique. Pour les activistes anti-Fujimori, une grâce serait une trahison à la mémoire des victimes de ce qu'ils considèrent être une dictature. Beaucoup doutent de la réalité des problèmes de santé de l'ancien président, qui est pourtant régulièrement transféré de sa prison à des cliniques pour des maux divers, comme des lésions sur la langue qui lui ont valu d'être opéré à 6 reprises. Alors que les opposants ont manifesté, Fujimori a d'ailleurs été transféré dans une clinique pour une cause que son médecin personnel n'a pas rendue publique.
Alors pourquoi le président péruvien prend-il ce qui semble être finalement un risque politique très important ?
Alors, la grâce de l'ancien président est une demande récurrente des Fujimoristes, et notamment de deux de ses enfants. Sa fille Keiko est à la tête de Force Populaire, c'est le mouvement Fujimoriste, et le fils Kenji qui ne cache pas ses ambitions présidentielles. Une demande de grâce humanitaire avait été déposée en 2013, rejetée par le président de l'époque, Ollanta Humala. Une deuxième demande a été déposée par le propre Fujimori l'an dernier. À quelques jours de la fin du mandat d'Humala, elle avait encore été rejetée, et à l'époque, Kuczynski paraissait opposé à l'idée. En mai dernier, Keiko Fujimori est revenu à la charge pour demander que son père puisse purger sa peine chez lui. Son parti a la majorité absolue au Congrès. Il peut donc compliquer la gestion du président Kuczynski, comme il y a quelques jours en censurant le ministre de l'économie. Un pardon présidentiel pourrait éventuellement donner provisoirement un peu d'air au régime, tout au moins à l'Assemblée.
Merci Eric Sanson, correspondant de RFI dans la région.
Gonaïve, 90.5 FM.
Avec les vacances estivales, le gouvernement haïtien redouble d'efforts pour que le pays redevienne une destination touristique, comme elle l'était jusque dans les années 80. Des décennies de troubles politiques, de catastrophes naturelles également, ont drastiquement réduit le nombre de visiteurs étrangers. Aujourd'hui, les visiteurs, surtout ce sont les membres de la diaspora haïtienne qui vivent aux États-Unis. Et le gouvernement haïtien veut aussi maintenant séduire les étrangers. Pour cela, le ministère du Tourisme veut apprendre aux Haïtiens à bien les accueillir. C'est un dossier signé Amélie Baron.
Affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Le tourisme est l'affaire de tous. C'est le nom de la campagne d'information lancée cet été. L'objectif est de faire comprendre aux riverains des sites touristiques qu'ils ont tous à gagner de cette activité. Car comme en témoigne la ministre du Tourisme, Jessie Menos, il y a très souvent une méconnaissance de ce que sont les attentes et les besoins des personnes qui visitent.
C'est le constat que nous avons fait. Les gens ne comprennent pas la notion de tourisme. Pour eux, un touriste est seulement un étranger. Mais un touriste, à la définition, c'est quelqu'un qui passe de nuitée en dehors de son domicile habituel. C'est vrai qu'Haïti est un pays très hospitalier. Cependant, nous avons des attitudes et des comportements que nous devrions changer, puisqu'on voyage aussi et on voit comment les autres peuples agissent, comment ils font pour attirer les touristes.
C'est quoi les comportements et les attitudes qu'il faut changer, qu'on observe en Haïti face aux touristes ?
Et la première des choses, c'est qu'il faut arrêter la mendicité. C'est la première des choses. Et aussi à l'accueil à l'aéroport, où je pense que les gens, des fois, ils disent qu'ils sont agressés, pas au niveau sécuritaire, mais au niveau de la demande. Est-ce que vous voulez quelque chose? Vous voulez que j'apporte les mallettes? Vous voulez ceci? Vous voulez cela? Et là, ça dérange. Et là, vraiment, il faut vraiment être plus calme et plus détendu. Donc, parce que c'est quand même la première porte d'entrée. C'est l'aéroport, c'est la façon d'être, et c'est la façon que le touriste va se sentir calme, parce que pour que les idées soient bien claires.
Haïti partage l'île avec la République dominicaine, on voit Punta Cana, on se dit les troubles politiques ont eu des conséquences sur Haïti. Est-ce que Haïti pourrait, voudrait être au même rang que la République dominicaine?
On n'aime pas se comparer. Haïti est et demeure jusqu'à présent, et pour nous, une perle rare. Haïti est un diamant non encore poli. Haïti, c'est the best kept secret, c'est le secret le mieux gardé. Nous ne sommes pas atteints de chauvinisme, mais quand même, on sait que ce que Haïti a un passé, Haïti a une culture qui est riche, unique, et nous avons le plus grand réseau de fortifications, nous avons des richesses, en partant du littoral jusqu'à la montagne, et les richesses d'Haïti, elles sont énormes, et il suffit seulement de se concentrer, et vraiment de prendre le taureau par les cornes et de dire voilà, on considère maintenant que le tourisme sera la locomotive pour le secteur économique, et à ce moment-là on guide et on y va, on fonce.
Le problème aussi pour le tourisme, ce sont tous les travel warnings, les avertissements qui sont lancés par des ambassades étrangères. C'est un frein total pour vous, pour le tourisme, ça fait peur?
En effet, par exemple, ce qui nous tue vraiment dans le travel warnings, ce sont les soins de santé, et nous faisons beaucoup d'efforts là-dessus. Et j'ai même pensé, avant-hier encore, j'étais à Sodo pour préparer la fête patronale et les fêtes champêtres vraiment, et où on a plus de 300 000 personnes à visiter les fêtes champêtres. Et là, et tout de suite après, j'avais le conseil des ministres. Et tout de suite après, j'ai parlé au ministre de la Santé. On va prendre des dispositifs de façon à ce qu'on puisse équiper au moins les centres de santé qui sont près des sites touristiques. Et là, vraiment, on a une capacité de réponse. Et c'est vrai, c'est un travail de longue haleine. Et on commence petit à petit, mais c'est sûr et certain qu'on va finir par arriver à nos moyens.
Un travail de longue haleine qui s'ouvre avec les fêtes champêtres et ce test ce week-end où les autorités vont avoir à gérer la circulation, la sécurité et tous les besoins des dizaines de milliers de touristes et de pèlerins qui vont se rendre à la cascade de Sodo sur le plateau central. Amélie Baron, Port-au-Prince, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marie.
Il y a du nouveau dans le ciel des Antilles. Dans un peu plus de 3 mois, la compagnie low-cost XL Airways volera presque tous les jours en direction de la Martinique et de la Guadeloupe.
Ce qui veut dire, en clair, que la compagnie, à compter du 20 octobre prochain, va désormais voler toute l'année vers les Antilles et pas seulement pendant ce qu'on appelle la haute saison. Franck Aristide.
Jusqu'à 3 vols directs par semaine, soit 32 000 sièges supplémentaires entre Roissy et les Antilles. XL Airways change décidément de cap. Il y a quelques semaines déjà, elle avait annoncé son intention de déployer un peu plus ses ailes vers nos régions avec l'ouverture de vols directs depuis 7 aéroports de province. Ses résultats lors de la dernière saison d'hiver l'ont probablement dopé avec 92% de taux de remplissage. Son PDG l'a qualifié d'historique, de quoi lui donner des ailes. Mais attention à ne pas reproduire deux fois la même erreur. À l'ouverture de la ligne en décembre 2012, elle s'était déjà donnée pour ambition de desservir les Antilles à l'année avec 4 vols hebdomadaires. Mais à peine quelques mois plus tard, elle les suspendait entre septembre et novembre pour ne faire que du saisonnier de décembre à juillet. Pour expliquer ce retrait partiel, elle avait évoqué une absence de marché durant une période qualifiée d'ultra basse. La donne aurait donc vraisemblablement changé depuis, au moment où une autre low cost norvégienne sort du bois et annonce ses ambitions Atlantique. XL Airways revient donc sur sa stratégie initiale. Reste à savoir si elle sera cette fois payante sur un marché ultra concurrentiel.
Restons dans le domaine du transport aérien avec ces vols retardés, ces files d'attente sans fin, ces contrôles renforcés pour les passagers à Paris à destination des Outre-mer en général et des Antilles en particulier. Voyager ces dernières semaines, c'est un calvaire. Même s'ils se déplacent sans escale d'un département français vers un autre, ils sont soumis au même contrôle que les vols vers l'étranger. À l'aéroport d'Orly à Paris, la colère monte. Un reportage Marie Boucher.
Il est à peine 11h et déjà, Patrick est dans la file pour enregistrer son bagage. Son vol pour Pointe-à-Pitre n'est qu'à 14h20, mais habitué à voyager vers les Antilles, il connaît bien le problème des retards.
C'est récurrent et ça devient de pire en pire. J'ai ramené un ami à moi qui prenait son avion pareil à 14h20. L'avion a décollé, il était près de 16h. L'avion a fait du retard parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu franchir la douane facilement parce qu'à la douane, il y a trop de monde. Et c'est à la douane qu'on perd du temps, c'est pas autre part. À l'enregistrement, ça va très bien, mais à la douane, c'est pas facile.
Face au risque terroriste, les contrôles sont renforcés. Problème, trop de voyageurs et pas assez de policiers à la douane. Résultat, les vols sont retardés, mais certains voyageurs sont rassurés.
Ce sont les inconvénients, hein, mais à l'heure actuelle, je préfère que les contrôles soient renforcés et qu'on perde du temps par rapport à ça que pour d'autres motifs. Ou...
Pourtant, la situation reste tendue, comme le raconte Coralie, agent d'escale à Orly.
Il y a eu des émeutes dans les files d'attente parce que les clients en avaient tellement marre d'attendre qu'ils sont battus. Après avoir attendu 2 à 3 heures, c'est tout à fait normal qu'ils soient en colère, les passagers. Il n'y a pas que les passagers, il y a également le personnel qui sont obligés de rester après l'heure de fin. On reste en heure supplémentaire à chaque fois, tous les jours.
Les usagers demandent moins de contrôle pour voyager en Outre-mer, territoire français. Pour le moment, pas de réponse. Il faudra donc être patient et prendre de l'avance.
Les PDG des compagnies Corsair et Air Caraïbes en appellent d'ailleurs au gouvernement pour mettre fin à cette situation. Bon après-midi Marie, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à Solène Moulin et Pauline Leduc à la réalisation. On se quitte en écoutant la cubaine Danès Suarez, Palabras Manuales. C'est un extrait de l'album du même nom qui vient de paraître. À demain.
La última canción que te escribo es esta. No va con molestia ni con protesta. No espera que un día toque tu puerta. Puedas entenderla de forma directa. No es para que saques en cuenta tus faltas, ni para que sepas que conmigo cuentas. No es para que sientas o que no sientas cuando ya estén de siesta los días de fiesta. Ahora no importa si te he querido en vano. Te creí más grande que que un ser humano. Ahora ya no es triste, es lindo el pasado. Puedes firmar mis documentos de segunda mano.
Pour sa 71e édition, le Festival d'Avignon met à l'honneur l'Afrique subsaharienne et vous invite à découvrir Tichel Bey, Fininto, L'œil troué et Sans repère, trois pièces marquantes du répertoire de la danse contemporaine africaine. À retrouver du 9 au 15 juillet au théâtre Benoît XII. Et pour ceux qui seraient loin, festival-avignon.tv, la chaîne du festival pour tout suivre en ligne. Plus d'informations sur festival-avignon.com et rfi.fr.
Merci.